cours de philosophie du vivant par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jean-d'Arc le 13 juin 1996.
Vous avez dit la dernière fois que le sens de la vue nous dispose à l'invisible. Mais comment expliquez-vous que la perfection de ce sens se retrouve plutôt chez les animaux et non chez l'homme? Je pense notamment à l'aigle et au lynx. C'est très vrai que l'homme n'a pas la vision la plus parfaite qui soit. Il y a un œil, celui de l'aigle, qui est plus parfait. C'est pas gênant, puisque chez les animaux, la connaissance la plus élevée, c'est la connaissance sensible. Pour l'homme, la connaissance sensible est toujours ordonnée à la connaissance intellectuelle. C'est pour ça que je peux faiblir du côté des sensations à cause des organes qui vieillissent, qui se sclérosent. Pour l'œil, pour l'ouïe, pour le toucher, est-ce que c'est le sens qui vieillit le moins vite? Je crois le toucher. Je crois que le toucher continue à s'affiner plus que l'œil. L'organe qui de fait, cause matérielle, qui peut se fatiguer, se durcir, et que la vue alors diminue, comme pour l'oreille. Alors du fait même que les sensations chez l'homme sont relatives à l'intelligence, pour bien nous montrer que ces sensations ne sont pas l'absolu. Dans sa sagesse, alors là, c'est une vision de sagesse, hein. Point de vue philosophie du vivant, je constate. Et je peux simplement dire, il est normal, pour que je comprenne mieux, que ma vision n'est pas un absolu. Qu'il puisse y avoir à côté de moi des animaux qui sont plus parfaits du côté de la vision que moi-même. Ceci me fait comprendre que la vision pour l'homme n'est pas un absolu. Qu'un aveugle peut avoir une intelligence plus développée que quelqu'un qui a une vision d'officier de marine parfaite. Parce que vous savez, quand vous avez une mauvaise vision et que vous avez un désir d'être officier de marine, on vous met à l'écart. On ne fait pas ça pour la communauté Saint-Jean. Pourtant, on est ordonné à la recherche de la vérité. Et si la vision est le sens le plus immédiatement ordonné à la vérité, on devrait faire passer un examen là-dessus. Et on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que la vision n'est pas un absolu pour l'homme. Et je crois que dans sa sagesse, alors, vision de sagesse, au terme, si Dieu a voulu qu'il y ait des aigles. C'est pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'aigle pour l'aigle. Dieu a créé l'homme pour l'homme. Mais c'est le seul animal qu'il a créé pour lui-même. Et donc il a créé l'aigle pour un équilibre mondial, international. Je ne sais pas comment l'aigle regarde quand il est très haut, l'homme. Il regarde des petits lapins et il bondit dessus. Mais alors, c'est pas pour ça, évidemment, que l'aigle a une très bonne vision. Je crois, c'est pour montrer à l'homme qu'il y a des animaux qui peuvent avoir une vision plus parfaite. Et l'homme, par le fait même, voit que l'absolu, pour lui, n'est pas la vision. C'est ce que je donnerais comme explication, vous voyez. C'est très vrai que la noblesse de l'aigle, c'est ce regard, un regard d'aigle. Vous connaissez l'histoire, je la raconte pas, vous la demanderez à vous, du père Emmanuel là-dessus. L'aigle et le lièvre. Petite histoire de famille du père Emmanuel. Qui nous montre bien ce regard d'aigle et en même temps ce regard de l'aigle et la peur. Je crois que celui qui a une très grande vision voit beaucoup plus de détails et ça demanderait une très grande force. L'aigle est un animal très particulier, l'aigle royal. Je ne dis pas plus. Vous dites que la vision possède en elle-même sa propre fin. Mais n'est-elle pas tout entière ordonnée dans la vie intellectuelle elle-même, vers la vie intellectuelle elle-même? Si on voit seulement pour le plaisir de voir, et encore plus dans le travail. Oui, c'est sûr. On ne peut pas dire que la vision possède en elle-même sa propre fin au point de vue de la connaissance. La vision, comme dans tous les sens, il n'y a pas de finalité. Donc il faudrait supprimer ça. Je présume que c'est un philosophie du vivant, que c'est pas entièrement correct. De temps en temps, il peut y avoir des petites erreurs. Notez-les pour corriger. Il faut corriger ça. Donc, la vision possède en elle-même sa propre. Il n'y a pas de finalité au niveau des sensations. Tout le domaine de la vie animale, sensible, il n'y a pas de finalité. Donc la vision est ordonnée à la vie intellectuelle. Ou la vision est ordonnée à la vie végétative. L'aigle est un rapace merveilleux à cause de sa vision. Il voit beaucoup plus de choses que les autres. Et son champ d'activité de chasse est plus étendu, parce qu'il voit mieux. Et ça, c'est pour sa vie végétative. C'est comme rapace. Mais, alors je ne sais pas si les hommes qui ont une vision plus parfaite sont des rapaces. Point d'interrogation, hein, là, je n'affirme pas. Mais vous voyez, l'officier de marine, c'est un rapace. Il doit avoir une vision très forte. les instruments. Alors, grâce à son radar, on capte des tas de choses que l'œil ne capte pas. Et on sait qu'il y a des obstacles. Il y a radar sur radar, vous savez bien, la police des radars. Et l'homme qui est policier, policier dans le sens qu'il est poursuivi par la police, un contre-radar, et ainsi de suite. Et le radar, c'est le prolongement de la vue. Mais c'est très, très, très important de comprendre qu'il y a ce que, au Moyen-Âge, on appelait les insensatés. Thomas d'Aquin, à la suite d'Avicenne, parle des insensatés. Aristote n'en parlait pas. Mais c'est présent quand même dans Aristote. Le mot insensaté, je ne crois pas, est d'Aristote. Insensaté, c'est-à-dire les choses que les sens ne saisissent pas et qui demeurent sensibles. Tout le magnétisme. C'est des choses que les sens ne saisissent pas et qui pourtant demeurent sensibles. Et alors là, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est dans un domaine très difficile à bien préciser, parce que l'aspect subjectif l'emporte sur l'aspect objectif. C'est l'aspect affectif qui l'emporte, parce que c'est insensaté. C'est-à-dire les choses que vous ne déterminez pas avec la vue. Vous ne déterminez pas avec le toucher. Et qu'on projette. C'est-à-dire on a fait des expériences au point de vue du cinéma pour se servir du cinéma pour influencer le public. On projette certaines choses que les sens ne peuvent pas saisir. Et que cependant, nous sommes influencés par ça. Alors, on est influencé et on ne saisit pas la détermination consciente. Et on subit l'influence. Alors ça, c'est tout ce domaine au-delà des sensations bien dites, qui est le domaine. Montre l'extension du toucher et le prolongement de la vision par le toucher. Le toucher proprement dit est un sens de proximité, mais le toucher des insensatés est quelque chose qui dépasse les distances. Donc, corriger. Si vous avez le livre que la vision possède en elle-même, sa propre fin, c'est pas tout à fait juste, parce que tous les sens sont peuvent être ordonnés à autre chose. Ils n'ont pas de finalité propre. Vous voyez, nos cinq sens sont ordonnés au développement de la vie humaine. Affective et intellectuelle. C'est l'homme qui a une finalité. Alors, les sens peuvent détecter des moyens, mais les sens ne détectent pas la fin, la finalité. Pouvez-vous nous parler du silence ? Qu'est-ce que c'est que le silence ? De cela aussi même, dans la règle de vie. Est-ce qu'on entend le silence ? Je ne veux, c'était cette citation qu'on donne de temps en temps pour un professeur. Je ne veux entendre que le silence quand on surveille. Alors on entend le silence. Est-ce que c'est vrai qu'on entend le silence ? De nuit dans une forêt. c'est la négation du bruit. Vous précisez le silence en opposition. Le bruit, vous savez ce que c'est. Le bruit est une conséquence du mouvement. Tout mouvement est source de bruit. La nuit, un frère qui marche lourdement, il y en a quand même de temps en temps, on les entend passer. Et si on est très habitué au caractère de chacun des frères et de leur comportement, on dit « Ah, c'est un tel !» Je reconnais sa démarche. Elle est ponctuée de telle manière. Parce qu'il y a des frères qui sont comme des gazelles quand ils avancent sur la pointe des pieds. Il y a des frères hippopotames. Et la fatigue augmente l'hippopotame. Légèreté, c'est très curieux ça, ça fait partie justement de ces constatations du milieu. Le silence caractérise un milieu. Il y a des milieux silencieux, j'en ai frappé ça. Quand vous quittez la ville et que vous entrez dans la campagne et que vous vous arrêtez, et vous arrêtez, vous entendez le silence. C'est-à-dire, vous entendez qu'il n'y a pas de bruit. Et que par le fait même, vous détectez des choses que d'habitude vous ne détectez pas. Le vacarme, le bruit étouffe ce silence. Vous voyez, les néoplatoniciens, Proclus, les néoplatoniciens, Plotin, étudient ce que c'est que le silence. Et vous savez que le crocodile est considéré qu'un animal divin par son silence. Le silence était considéré par les anciens comme une qualité divine. L'homme naturellement fait du bruit. Celui qui est au-dessus de la parole et du mouvement, il est dans le silence. Donc c'est un caractère divin. C'est pour ça qu'il y a des personnes humaines qui sont des individus qui ont peur du silence. Alors, ils ont besoin de voyager dans le bruit. N'importe quel bruit. Le bruit les rassure. Parce que, avec le bruit, on n'est pas seul. Dans le silence, on est seul. Et quelquefois, on a peur du silence. Le silence est très développé en spiritualité. Le silence intérieur. Mais la méditation du Zen transcendantale, on recherche le silence. On recherche le non-mouvement. Donc on veut quitter le vacarme. Parce que notre monde est un monde de vacarme. Pour découvrir le silence. Le silence intérieur. Alors, découvrir le silence intérieur en vue de, c'est très bien. Découvrir le silence intérieur pour lui-même, c'est dangereux. C'est le primat de la négation. Le primat de la négation du mouvement, c'est le silence. Le primat de la négation du silence, du mouvement, je veux dire, le primat de la négation du mouvement n'est pas une finalité. C'est toujours en vue de, c'est pour ça que le silence caractérise un milieu de vie. dernière révélation, c'est la révélation du silence de Dieu. Alors, les Égyptiens considéraient que le silence était chose divine, et c'est pour ça que le crocodile était un animal divin. Présence de Dieu. Il y a des présences silencieuses. Il y a des présences qui sont dans le vacarme et le bruit. Oui. Donc le silence est comme une propriété de l'intériorité de celui qui cherche l'au-delà du mouvement dans la contemplation. La contemplation est silencieuse. De nos sensations. enveloppe. La vue est source de détermination. Et source de la connaissance des couleurs et de la lumière. Et la lumière est comme un au-delà de la diversité. Est-ce que c'est la première division dans le monde sensible? Je croirais assez volontiers que c'est la première division. Il faut la chaleur et la lumière. S'il n'y a plus de chaleur et plus de lumière, on est en présence de la négation de la vie. Donc les conditions nécessaires pour la vie, c'est ça. Et ceci est capital à comprendre. Il y a l'être et la vie. pourquoi c'est la couleur. Comme c'est fait par rapport à la vision, qui est la connaissance sensible, la plus lucide, la plus lumineuse, c'est le cas de le dire. Vous allez retrouver des reconnaissances, le goût et le quad. Alors qu'est-ce que ça veut dire le goût et le quad? Ce par quoi? Ce qui est connu. Ce par quoi on connaît. J'essaie de voir ce qui détermine le quad et ce par quoi on atteint le terme, ce qui termine, ce qui spécifie. Alors, le coup spécifie comme métaxu. Et le quad spécifie. Ce qui est connu. Alors, à partir de là, on parlera de l'objet formel et de l'objet matériel. C'est intéressant de que ces distinctions, on les prenne à l'origine. C'est pour ça que la philosophie de la vision est si importante pour comprendre ce qu'est la connaissance. Beaucoup plus que le toucher. Et ici, parler de l'objet formel. Ça te dira la ratio formalis. Donc c'est vraiment ce qui détermine ce par quoi les autres sont déterminés. Alors, au sens rigoureux, vous ne connaissez pas la lumière. C'est la distinction première de tout devenir. Dès que je suis en face d'une opération vitale, consciente, la vision, pas la vie végétative, la vision, je vois qu'on parlera de objet matériel. Donc, la distinction matière et forme est dépassée. peux connaître l'homme biologiquement. Je connais le corps de l'homme. Je peux connaître l'homme psychologiquement. Je peux connaître l'homme philosophiquement, du côté éthique, du côté moral. C'est toujours l'homme que je connais. Matériel, cher Kankouam. Ce qui est connu. Mais je peux le connaître de diverses manières. L'objet formel. Je le connais en philosophe. Je le connais en psychologue. Je le connais en... Alors, j'ajouterai en artiste. L'artiste connaît l'homme. L'artiste connaît le visage de l'homme. Il aime... Ensuite,